discuter des rubriques, il y a ce que nous appelons le grand entretien. C'est-à-dire il est grand à la fois par la stature des personnes que nous choisissons.
Ça commence bien.
Pour l'entretien. Ça, et il est grand aussi par la longueur, en quelque sorte, puisque c'est quand même plus long qu'un article. Alors donc, pour ce numéro-ci, on a choisi, et on vous l'a proposé, de faire quelque chose sur les élections, ce qu'on peut en dire maintenant. Bon, c'est Nathalie qui va prendre ça, enfin, qui a préparé tout ça, donc qui va vous soumettre à la question. Moi, simplement, je donne les éléments, c'est-à-dire, comme, même si c'est un grand entretien, grand par la taille, il ne faut quand même pas que ça aille au-delà de 30-35 000 signes. Et l'expérience montre que si on veut ne pas être obligé de couper, il ne faut pas aller au-delà d'une heure et quart, une heure et demie au grand maximum. Ça vous convient, ça?
Oui, très bien, mais 35 000 signes, c'est une réponse à une question de Patrick Lange.
Ça en verra. Non mais attends, nous, c'est quand même nous qui manions les ciseaux. C'est quand même nous qui manions les ciseaux. Je t'avais dit que tu n'avais pas
t'inquiéter. Mais
il est insécable. Bon, alors, d'autre part, comme on est dans la période un peu délicate pour la revue, puisque pour des raisons commerciales, il faut qu'elle sorte début septembre, notamment pour pouvoir être vendu à la fête de l'UMA.
En fait, c'est pour ça que je ne peux pas venir à Spel, il faut que j'aille vendre ton entretien à la fête de l'UMA.
Bon, que les gens prennent des vacances, donc on aimerait finir tout ça, c'est-à-dire boucler, à la fin juillet. Donc Nathalie se fait fort de vous envoyer vers la mi-juillet.
Moi, je parle le
18. Moi, je parle le 20.
Moi, je parle le 16.
Non, mais je vais faire ça.
Il faut que tu fasses ça pour le 10.
Oui, non, je vais faire ça très vite. Voilà, mais il ne faut
m'aider pas. Oui, non, mais on aidera. Donc, elle va essayer de faire ça.
Des chiffres un peu plus précis.
Dans notre tradition, elle va faire ça. Elle va déjà rédiger un peu, parce qu'on. Surtout si vous êtes très long, il
faut savoir. Non, c'est pas sûr qu'on soit très long. C'est une émission qui nous a laissé un petit
peu. Non, mais surtout si vous parlez Picard ou je sais pas quoi, Daniel, il parle quoi?
Il a parlé Picard aussi.
Il a parlé Picard aussi, oui.
Non, mais donc, l'objectif, c'est d'avoir un papier un peu à chaud dès septembre.
Il va falloir donc corriger un peu, mais ça le fera. Donc, mais après, il faut que vous le renvoyez assez vite, mais si vous partez en vacances, la question est réglée. Donc, avant d'entrer, ou pour entrer dans le vif du sujet, moi j'avais envie de vous poser une question, alors de journaliste en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette séquence électorale? Alors, soit en la prenant dans sa globalité, soit en distinguant présidentielle et législative. Si cette question ne vous convient pas...
Non, c'est nul comme question.
Alors, qui c'est qui commence?
Patrick.
Vas-y.
C'est Patrick qui commence. Ensuite, je vais dire, il l'a très bien dit.
Remarquez, hésitation.
Longue hésitation. Il y a des questions à faire.
Ben oui, il y a des questions. Non, mais ça, c'est pour entrer dans le truc et puis on...
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses radicalement nouvelles par rapport au scrutin comparable.
Ouais.
C'est toujours le problème. Hein. Sur le coup, on est tous victimes d'une couverture médiatique qui tend à valoriser le jamais vu, le scoop, l'inédit, l'inouï, etc. Et dès qu'on a un tout petit recul, dès qu'on n'est plus pris dans cette sorte d'effervescence collective qu'est qu'on veut ou non une élection, donc dès que les choses se reposent un peu, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de structurellement véritablement nouveau. Ce qui était peut-être nouveau, me semble-t-il, c'était la campagne de 2007.
Mmh.
Tant par le taux de participation, le caractère de nouveau, de l'offre de candidats, le brouillage des lignes idéologiques, etc. Là, j'ai l'impression qu'on a plutôt une élection de remise en ordre, y compris, je pense qu'on y reviendra longuement sur les, taux de participation. Ils reviennent à un étiage à peu près moyen, et avec à nouveau un écart de participation affectant les classes populaires qui rompt avec son économie.
Oui, alors la question c'est est-ce que c'est les choses qui nous ont frappées ou est-ce que c'est des choses nouvelles? Bon, alors il y a des choses qui nous ont frappées qui ne sont pas nécessairement nouvelles. Alors, par exemple, moi ce qui me frappe c'est la marginalisation des élections parlementaires. Alors c'est pas nouveau, mais ça s'est quand même renforcé. Donc, c'est quand même une exception en Europe. Hein. Les grandes élections en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Espagne, ce sont les élections parlementaires. Bon, nous, on voit quand on interroge les gens, hein, l'élection de premier ordre, c'est l'élection présidentielle. Bon, et les élections législatives, on les oublie complètement. Alors, ça se traduit notamment par des taux d'abstention considérables. Et, si on se place non pas d'un point de vue d'analyse de sciences sociales, mais d'un point de vue citoyen, je veux dire, c'est potentiellement pervers, hein, parce que c'est une élection qui est extrêmement personnalisée. Quoi, et donc ça génère toutes sortes d'effets qui sont dommageables d'un point de vue normatif. Quoi, hein. Alors, moi, il y a une autre chose, je pense que c'est pas nouveau, mais peut-être que ça s'est accentué, c'est-à-dire qu'on enregistre un truc contradictoire avec une synthèse très bizarre, quoi. Alors, un truc qui est bien connu depuis 70 ou 80 ans, c'est que dans une élection de ce type, il y a des phénomènes classiques d'engouement, quoi, hein, pour les candidats. Bon, alors, par exemple, au début, tout le monde disait « Ah, Hollande, pas de charisme. » Bon, puis il y a des gens progressivement qui ont trouvé du charisme. Bon, des gens qui étaient très critiques par Sarkozy, des sarkozistes très critiques de Sarkozy, qui sont beaucoup moins après. Bon, donc, ça, c'est bien connu. Hein, bon. Alors, par ailleurs, il y a un autre truc qui est bien connu, c'est-à-dire que ce qui caractérise la période actuelle, c'est l'ampleur, les sentiments de défiance par rapport à la politique, de scepticisme, de désillusion, bon, et on a les deux. C'est-à-dire qu'on a un type très particulier de vote, quoi, hein, vote sans illusion. Quoi. Voilà. Ça, c'est pas complètement nouveau. Mais je pense que c'est un truc qui s'est considérablement renforcé. C'est-à-dire les gens disent, bon, ouais, je vais voter pour Hollande, bon, je ne suis pas sûr du tout que ça change quoi que ce soit, enfin, je vais faire quand même.
Vous le distinguez du vote utile, ça, le vote sans illusion. Ou est-ce que...
Le vote utile, c'est, j'aimerais bien voter pour Mélenchon, mais je vais voter Hollande parce que je ne voudrais pas que 2002 revienne. Hein, ça. Et ce que j'appelle le vote sans illusion, c'est le fait que presque tout le monde le dit d'une manière, enfin tous ceux qu'on a rencontrés en tous les cas, le disent en disant, bon, y compris des gens, j'en ai interrogé une dans cette salle, très pro-Hollande, très pro-socialiste, bon, très attaché à la proposition 60 000 postes, et elle qui dit, bon, est-ce qu'il va pouvoir le faire?
Et justement,
on n'y croit plus, on voudrait y croire. Mais raisonnablement, on n'y croit plus. Et je pense que dans ce qu'il faut peut-être rappeler le phénomène Mélenchon, il y avait quand même beaucoup. On n'y croit plus et tout à coup, on voudrait y croire, et les choses retombent malheureusement assez vite.
Alors justement, vous avez évoqué les personnes que vous avez rencontrées. Quel type d'enquête vous avez menée pendant cette séquence électorale et avec quels objectifs? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quelles sont vos pistes d'analyse?
Alors, ça a emprunté de très nombreuses formes, qui toutes n'aboutiront d'ailleurs peut-être pas. Je pense que le programme qui est à ce stade le plus avancé et probablement le plus alléchant, c'est un programme d'entretien approfondi mené auprès d'un échantillon qui n'a pas l'ambition d'être représentatif, mais en tout cas qui est diversifié. Donc des entretiens d'assez longue durée, panélisés, comme on dit, répétés auprès des mêmes personnes, avec à chaque fois avec une harmonisation minimale des questionnements et avec l'ambition d'encastrer les rapports au vote à la plus politique dans les trajectoires du graphique des individus. Donc ça, c'est une expérience, je ne sais pas combien on est à peu près d'entretien.
On est une petite vingtaine et ça doit faire autour de 80 entretiens, 80 personnes.
Hein, 80 personnes.
80 personnes. Plus, alors il y a des centaines d'entretiens qui ont été faits avec des étudiants en plus, quoi, mais qui ne font pas toute la séquence. Quoi. Mmh. La séquence, l'idée, c'est de continuer le plus loin possible. Pour certains, jusqu'à début 2013.
D'accord. Et vous faites ça, vous avez fait ça depuis.
Depuis octobre.
Depuis l'automne 2011, avec l'idée qu'il n'y ait jamais.
Non, mais je veux dire, vous avez réinjecté des choses après ces élections-là, déjà.
Oui, vous avez fait réagir vos enquêtés aux résultats, par exemple.
Oui,
c'est
sûr.
Non,
oui,
non, non, non. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement.
Non, et l'idée étant de les reprendre éventuellement à l'automne pour mesurer, justement, hors période de mobilisation électorale. Comment les gens, est-ce que les rapports à la politique reprennent leur vie normale.
Et les premières déceptions.
Et c'est un projet de quel type, là? Parce que nos lecteurs sont friands.
On appelle ça SPEL, ça veut dire Sociologie politique des élections 2012.
C'est réunion qu'elle m'a.
Et c'est, là, elle ne veut pas venir aux réunions parce que
c'est trop politique.
C'est loin, non.
Alors ça, c'était un premier axe. On en a un second, c'est-à-dire on a administré des questionnaires écrits très longs, donc très complets, devant ce qu'on pourrait appeler des publics captifs, c'est-à-dire des étudiants de première année. Et là, alors pour des raisons seulement de calendrier, c'est-à-dire la date des examens coïncidant avec les élections présidentielles, qu'on n'avait plus les étudiants à disposition, on a essentiellement deux vagues et j'espère qu'on en réitérera sur le même modèle une troisième au mois d'octobre. Donc ça, c'est sur une dizaine de sites. Oui. Donc ça, c'est une dizaine de sites. On a 5000 questionnaires pour la première vague et 1200 à peu près pour la seconde. Avec malheureusement un gros lot de codage, des financements qui sont très précaires. Mais bon, c'est commencé et ça s'avère d'ores et déjà très très prometteur. Avec une population très très spécifique. Hein. Ce sont généralement des étudiants de première année. Endroits sur des sites très différents, UOP Lille-Toulouse, ou Paris 13 Amiens, Nanterre. Donc avec l'idée de diversifier par site, un même codage qui va nous permettre de disposer quand même d'effectifs assez importants pour faire des tri assez fins. Et en même temps, là encore, hein, de par une relative démocratisation de l'enseignement supérieur, nous à Amiens par exemple, nos étudiants de première année de droit sont pour 40% d'entre eux boursiers. Et pour 30% fils d'ouvriers et d'employés. Donc on est plus tout à fait dans le schéma des héritiers, ce qui nous permet peut-être d'aller un peu plus. De creuser un peu plus profond. Là encore, sur les rapports à la politique, et c'était essentiellement sur les modes de structuration de préférences politiques en relation avec le groupe familial, enfin, c'est même le groupe primaire. Donc le groupe familial, les amis, et quelques expériences de travail.
Alors, c'est un questionnaire en ligne. On a dû abandonner sous les injonctions de la
CNIL, mais qu'il y a 1700 personnes qui ont répondu. Alors, c'est un questionnaire plus court. Sébastien a dit 1700.
Ça, c'était juste à.
C'était juste à Strasbourg. Non, avec l'idée qu'il n'est peut-être pas complètement perdu, puisque la CNIL aurait changé entre temps sa jurisprudence, donc il pourra peut-être.
De toute façon, on l'a dépouillé quand même, hein, c'est entre nous. Par ailleurs, il y a un groupe qui travaille sur les meetings. Il y a un groupe, alors finalement sur les meetings.
Un groupe de chercheurs.
Oui, un groupe de chercheurs. SPEL, t'as SPEL Univers.
Mais ça, je ne vais pas noter ça. Hein. Là, vous allez m'embrouiller, là.
SPEL Univers qui traite de tout. Et puis, t'as des galaxies, SPEL Galactique, donc t'es une galaxie qui s'occupe des meetings. Alors, il y avait une galaxie qui s'occupe des médias, mais qui est devenue un trou noir, qui s'est effondré sous sa propre gravité, et sur les sondages aussi. Nous. Voilà. Donc, il y a trois équipes vraiment qui marchent. Il y a quatre. Il y a aussi un groupe qui marche très bien. On appelait ça Construction des enjeux. Donc, qui travaille notamment sur l'action des lobbyistes pendant la campagne électorale. Donc, il y a quatre trucs qui marchent. Il y a les enquêtes par questionnaire auprès des étudiants, Il y a l'enquête par entretien approfondie et renouvelée dans le temps. Il y a l'enquête sur les meetings. Et il y a l'enquête sur la construction des enjeux, notamment l'action des lobbyistes.
Et les sondages avec Nicolas.
Et... ça marche, ça fait bien.
Mais alors, en quoi, qu'est-ce que vous attendez de ces enquêtes? C'est plus une réflexion sur les rapports aux politiques que ce qu'une véritable sociologie des électorats. C'est plus la séquence électorale comme occasion de réfléchir sur les rapports aux politiques et, comme tu disais, sur ce qui structure les choix politiques, les logiques sociales des comportements politiques.
Oui, on ne sera pas sur une sociologie classique des électorats. Si on peut se permettre une parenthèse, on est d'ailleurs dans un état d'ignorance assez catastrophique. On a le paradoxe d'un nombre de sondages d'opinion qui n'a jamais été aussi important, puisqu'on avait 8 instituts qui ont réalisé, pour certains, jusqu'à 25 enquêtes depuis 18 mois.
Et 25 enquêtes par institut.
CSA et l'IFOP, on en fait 25.
D'accord.
Et on est au jour d'aujourd'hui incapable de donner des chiffres même approximatifs sur des choses aussi bêtes que la structure par âge ou par sexe de l'électorat, si on veut l'appeler comme ça, Le Pen ou Hollande.
Mais comment tu expliques ça? C'est, ils ne posent plus ces questions-là dans leurs enquêtes.
C'est-à-dire qu'ils ont renoncé au sondage sorti des urnes parce que ça ne leur servait à rien pour les soirées électorales. Et donc ils ne posent plus que des sondages qu'ils appellent le jour du vote, pour 6 d'entre eux uniquement en ligne, donc le biais que vous imaginez. Donc il y a un seul sondage qui a été fait par téléphone, je crois que c'est via Voice. Et quand on... Enfin, moi je les ai tous collectés, et c'est absolument aberrant, quoi. Sur les structures par âge, on peut admettre les différences de 1, 2, 3 points, ça c'est pas gênant. Mais sur le gender gap, les structures par âge, les CSP, les résultats sont complètement contradictoires.
Contradictoire entre les institutions.
Ce qui veut dire qu'on attend toutes les grandes mythologies sur le vote Le Pen comme premier vote des ouvriers, le vote Mélenchon comme vote Bobo, tout ça peut se nourrir, puisqu'on n'a aucune enquête actuellement un peu solide sur la structure basique, hein, vraiment basique, puisque généralement on en reste au CSP, en CIPOS, c'est très grossier. Mais même ça, on n'en dispose pas, puisque. Moi, celle sur laquelle je me calme, c'est plutôt via voice, parce que c'était par téléphone, et les résultats ont pas l'air d'être trop aberrants, mais...
Quand tu opposes enquête en ligne et, ouais. et téléphone, c'est parce que l'une, on choisit son échantillon, ou...
Il y a auto-sélection
d'échantillons, si tu veux. Pour les enquêtes en ligne.
Ouais.
Donc c'est moins représentatif, c'est ça, parce qu'il faut dire ça.
Non, puis de par l'opacité, c'est une méthode. Quoi. Ouais. La moitié des sondages ont été faits en ligne, pour des raisons de coût évident, parce que tu n'as plus un enquêteur de terrain.
Donc, ça donc avec des gens qui sont volontaires, en quelque sorte.
Alors, ils ont d'énormes panels.
Ils sont en ligne.
Oui, ils sont en ligne.
Et t'en as 30% qui ne sont pas en ligne, déjà. En ligne, ça veut dire que tu as un ordinateur.
Oui, oui, c'est ça, d'accord. Non, mais en plus, il n'y a aucun... enfin, c'est... C'est eux qui décident, ce sont les sondés qui décident, qui vont...
Mais des sondés qui ont un ordinateur.
Oui.
Mais il y avait quand même...
Ils vont participer au sondage et non pas des échantillons qui sont constitués...
Les instituts se vantent d'avoir des bases de sondage de 100 000, 200 000, quelquefois 1 million de panélistes, dans lesquels ils puisent, donc ils vont balancer le questionnaire à combien on ne sait pas, sur quels critères on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne les balancent pas à 1 million. Et là-dessus, tu as 1000 ou 2000 personnes qui spontanément, entre guillemets, vont répondre. Tu ne sais pas qui c'est, sur quelle motivation. Et là-dessus, ils procèdent à zéro dressement, donc on ne sait rien. Donc là, à trois endroits, une zone de capacité.
Tu as une étude de quota où ils essayent de tenir les quotas dans les limites de ce qu'on vient de dire. Hein. Par exemple, tu vas avoir le quota d'ouvriers plus ou moins respecté, et ce sera des ouvriers qui ont des ordinateurs. Ouais. Bon, c'est-à-dire pas n'importe quel ouvrier. Quoi. Bon. Donc déjà, il y a ça, mais alors ils tiennent des logiques de quotas. D'un côté, par exemple, les DPS, les PCS très grossières, hein, ce qui est un problème, et par ailleurs, ils vont tenir des quotas d'âge. Mais ils ne vont pas tenir les deux ensemble. Tu vois. Et donc, par exemple, quand tu regardes un échantillon, un sous-échantillon d'électeurs Le Pen, tu peux avoir des trucs complètement aberrants sous le rapport de l'âge, parce qu'ils ont essayé de tenir les quotas de PCS, tu vois. Mmh. Donc,
ah,
c'est
oui, d'accord.
Et donc, de toute façon, il suffit, il y a un test assez simple, c'est de confronter les résultats des différentes enquêtes entre elles. Et là, tu vois des variations extrêmement importantes.
Franchement, je pourrais vous retrouver le vote Mélenchon chez les ouvriers, il est entre 8 et 22%. Ce qui, quand même.
Et ça, ça serait vraiment intéressant parce qu'effectivement.
Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les instruments mobilisés sont extraordinairement grossiers. Mmh. Hein? Par exemple, les PCS, vous voyez, c'est des PCF, c'est même pas un chiffre. Hein? C'est-à-dire, bon, donc, par exemple, tu vois, profession intermédiaire, ouais, ouais. Ça mélange des représentants de commerce, des professeurs des écoles, du privé, du public, des petits artistes, on appelle ça profession intermédiaire. Bon. Et on calcule un chiffre moyen de vote pour Mélenchon. Quoi. Et comme tu ne contrôles pas en plus, tu vois, ce que tu vas entrer comme profession intermédiaire, parce que la limite suffit qu'il soit profession intermédiaire. Donc si tu as un instituteur ou si tu as un représentant de commerce, c'est bon.
Oui, mais en quoi est-ce que c'est gênant, enfin, en quoi est-ce que c'est gênant qu'ils fassent des trucs un peu n'importe comment, enfin, autrement que dans un débat entre spécialistes, là. Est-ce que ça, enfin, où je vais poser la question plus directement, est-ce que dans vos travaux, vous pouvez dire qu'il y a une rétro-influence, en quelque sorte, des sondages sur les électorats?
Oui.
Parce que s'il n'y en avait pas,
Il y a l'influence, c'est pas sur tous les électeurs, c'est sur certains. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est une influence en gros, quoi. Hein, c'est bon. Mais par exemple, les fractions attentives à ça du public, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le public, hein, les fractions attentives à ça sont attentives au fait que, bon, bah voilà, au deuxième tour, on sait à peu près à l'avance que ça sera Hollande et Sarkozy. Quoi. Mmh. Voilà, bon, on sait ça. Bon, par ailleurs, on sait qu'il y a eu 2002. Mmh. Voilà. Donc, on a intégré l'idée que les sondages nous disent ça, mais qu'il y a un petit risque. Voilà, donc bon, il y a des gens qui s'appuient là-dessus. En ce sens, ça produit des effets. Non, mais surtout, c'est pas seulement une querelle entre spécialistes, c'est aussi. On donne à voir une réalité des élections, du comportement des électeurs, qui est une représentation totalement faussée. Et donc lourde de. D'effets politiques potentiels. Par exemple, tu as une représentation complètement faussée de ce que c'est que l'électorat Le Pen. Ne serait-ce que la catégorie même d'électorat Le Pen, ça introduit le présupposé que tous ces gens-là ont des choses en commun, qui pensent la même chose, qui pensent comme Marine.
Ils sont stables.
Oui, voilà, distincts des autres. Ils pensent la même chose, ils ne pensent pas la même chose que les autres. Enfin, donc plein de présupposés faux.
C'est du communautarisme électoral.
Sur l'influence des sondages, effectivement, elle est très variable selon le degré d'intérêt que tu portes à la politique. Alors c'est très bizarre parce que finalement, la plus grande influence des sondages, elle se base sur l'échec d'une prophétie, c'est-à-dire 2002. C'est-à-dire, moi, j'ai été confronté, c'est une expérience marrante, hein, à toute une série de gens qui m'ont dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas de risque au premier tour, que Le Pen soit présent. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de voter Mélenchon un jeu? Et à la limite de ma science, je leur explique qu'effectivement, là, les marges sont tellement larges que le risque est quand même très très minime. Mais il n'empêche, il y a un tel traumatisme que. Bon. Alors après, c'est pas tout à fait ce dont on discutait. Ce dont on discutait, c'est qu'on a en véritable régression, et à la fois prolifération de sondage, et en même temps, on n'a pratiquement plus aucune enquête sérieuse sur laquelle baser un minimum, enfin, quitte à approfondir, bien sûr, au niveau du commentaire. L'exemple le plus flagrant étant, sans même rentrer dans les questions de codage, la question du sexe. T'as une variété de chiffres qui te donnent, quelquefois, Sarkozy 13 en avant chez les femmes, en d'autres, c'est exactement l'inverse. On est dans un brouillard complet. Ajoutons à cela que les questions posées ne renvoient pas du tout, même à minima, aux catégories qui nous, enfin, desquelles on part, même si c'est pour les dépasser. Par exemple, le niveau de diplôme est presque jamais interrogé. la tripartition publique privée indépendante, presque jamais citée. Le sentiment d'appartenir à un groupe social, ou encore une rare enquête qui avait été faite par l'IB, là encore, c'est pas du tout cité. Les contextes résidentiels sont toujours ignorés, etc. etc. Donc, effectivement, l'effet rétroactif, si tu veux, c'est que on a des commentaires qui, désormais, peuvent s'appuyer sur tout et n'importe quoi, alors qu'auparavant, on avait quand même 1 million de garde-fous. Hein, qui permettait de dire, mais non, là, c'est pas possible, c'est...
Mais comment expliquer cela? Parce que, bon, il y a quand même une grande tradition de partenariat entre certaines équipes de recherche en sciences politiques et des instituts de sondage, où on pouvait avoir des enquêtes qui reposaient sur des questionnaires sortis des urnes à peu près identiques d'élection en élection, ce qui permettait d'avoir des données, comme tu disais, un peu plus solides que celles dont on dispose maintenant. Comment on peut expliquer cette évolution dans les études?
Je crois qu'il y a un élan du temps, une humeur, c'est proprement idéologique au sens très fort du terme, c'est-à-dire il y a la conviction qu'il n'y a plus aucune espèce de préorientation sociale, voilà, de préférence électorale. Et qu'à partir de ce moment-là, travailler avec ce qu'on appelle
les variables lourdes,
c'est un travail de lourdeau. Quoi. C'est un travail
voilà,
de c'est
travailler avec
rien compris à la société liquide, à la fluidité des votes.
Au vote sur enjeu, au dépassement de la politique, de la vieille politique par la politique des valeurs, c'est ça?
C'est très comique, parce que quand on fait Blocher, quand tu fais la vision, c'est fait taper dessus par les Américains, sur le mode, notamment par Lewis Beck, hein, qui est un des ponts de sociologie électorale aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur la France, en disant « mais vous aviez inventé sans le savoir ce qu'on appelle l'effet patrimoine, donc vous avez été les premiers Français » à tester l'influence des variables patrimoniales sur le vote, et vous avez laissé complètement ça tomber dans les questionnaires, alors que c'était quelque chose que nous on trouvait très très original. Donc même une sociologie états-unienne assez classique, on vient à reprocher aux études dominantes en France d'oublier ce sur quoi ils avaient assis un minimum de crédit.
Parce que là, ce qu'on a vu beaucoup se développer, mais sans que ça repose sur des données vraiment fiable, c'est l'idée que, bah, par exemple, le vote Front National, de plus en plus important et de plus en plus divers dans les milieux populaires et géographiquement, s'expliquerait par un plus grand sentiment d'insécurité culturelle, l'insécurisation culturelle. Enfin, je pense notamment aux travaux dans la note Jean Jaurès ou aux travaux de Laurent Bouvet, etc. Enfin, des analyses qui mettent au centre les valeurs culturelles au détriment de l'axe des variables socio-économiques plus classiques.
Oui, ça c'est une des
phrases. En fait, il y a beaucoup d'argent qui sont mis dans ces enquêtes, hein, bon, pour des résultats extrêmement minces. Bon. Alors, déjà, c'est de l'argent qui va pour des instituts privés, bon, qui ne sont pas là pour faire la connaissance. Hein, ils sont là d'abord pour vendre du service. Bon. Et donc, ils vendent des services d'études à des clients, principalement des médias, qui ne sont pas demandeurs de raffinement, quoi, hein, et de sophistication. Donc là, déjà, il y a le premier mécanisme, hein, bon. y compris des raffinements élémentaires, par exemple sur les marges d'erreur. Les instituts de sondage ont beaucoup de mal à passer le message à leurs clients médias. Quand pas intérêt à cette complication, quoi. Quand ils disent Sarkozy passe devant Hollande, en réalité ça n'a aucun sens de dire ça, hein. Ils sont dans la même marge d'erreur, oui, bon. Mais ils ont ceux qui ont payé le sondage, les journaux, ils ont envie de dire que Sarkozy est passé devant Hollande. Si on leur dit oh mais on peut rien dire, on est dans la marge d'erreur, vous dire à quoi ça sert qu'on vous donne du fric, quoi. Donc ça, je pense que c'est le mécanisme principal. Bon. Alors il y a une toute petite partie de cet argent, cette masse financière qui est considérable, qui va à des instituts de recherche plus universitaires, mais qui sont extrêmement orthodoxes du point de vue de leurs présupposés scientifiques et intellectuels, et donc qui, pour l'essentiel, quoi, renvoie aux autres catégories de spécialistes l'image des élections des électeurs qu'ils ont envie d'avoir. Quoi, hein. Donc tout ça tourne en rond, hein, bon. Tout en produisant des effets politiques. Alors, par exemple, pour revenir sur la dernière question, sur le, ce qui est convenu d'appeler l'électorat du Front National ou l'électorat Le Pen. Bon, c'est un nombre d'illusions, hein, l'illusion d'homogénéité et l'illusion de, comment on pourrait dire ça, de, d'originalité. Hein. Donc ça, c'est un truc qu'il faut, c'est un truc qu'il faudrait essayer de déconstruire. Quoi, hein. Bon. Alors déjà, ce qu'il est convenu d'appeler l'électorat Le Pen, moi je pense qu'il vaut mieux appeler un conglomérat, parce que la connotation justement, donc un conglomérat, mais il est fait de segments extrêmement différents. Extrêmement différents sous le rapport des raisons qui les conduisent à faire ce choix à un moment donné du temps. Extrêmement différents également sous le rapport du degré d'investissement dans le choix. Il y a des gens qui disent « moi je vote Le Pen, mais c'est un message que j'envoie, je ne veux absolument pas qu'il gagne, je pense que c'est très dangereux. » Donc je ne dis pas que la majorité des électeurs Le Pen sont comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. En tous les cas, ils le disent. Bon. Donc il y a des degrés d'adhésion au vote qui sont extrêmement différentes. Hein. Bon. Alors même s'il y a des mécanismes d'homogénéisation, voilà, c'est très compliqué. Il y a différents mécanismes d'homogénéisation, si vous intéressez, on peut entrer dans le détail. Hein. Alors par exemple, tous les électeurs Le Pen, il y a beaucoup d'électeurs Le Pen qui sont préoccupés par la question d'immigration, c'est vrai, mais pas tous, et pas pour les mêmes raisons. Et par ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'électorat Le Pen, c'est un conglomérat de gens qui pensent des choses contradictoires. Hein, par exemple, il y a des gens qui pensent qu'il faut arrêter de donner des aides sociales aux immigrés. Hein. Et il y en a d'autres, les mêmes, qui disent il faut nous réserver les aides sociales. Donc il y a des divergences importantes au sein de ce conglomérat sur la question des aides sociales. Et ce qui tient tout ça ensemble, c'est aussi le fait qu'on impute les propriétés du conglomérat Le Pen au fait que c'est un parti de droite radicale, ce que c'est, mais c'est aussi un parti marginal. Une propriété importante de ses capacités de mobilisation résulte du fait que c'est un parti marginal. Par marginal, je veux dire quoi? Je veux dire que c'est pas un parti de gouvernement pour l'instant. C'est un parti qui n'a jamais été associé à une coalition gouvernementale. Et ça, c'est une propriété extrêmement importante. Il n'y a pas simplement la propriété d'être de droite radicale. Il y a cette propriété-là.
C'est important dans quel sens?
Dans ses capacités. Par exemple, quand on regarde, même si on a des chiffres extrêmement approximatifs, comme on disait, mais il y a quand même un résultat qui ressort. Et, pas seulement en France, d'ailleurs, on a des résultats identiques dans d'autres pays, c'est que le Front National, ou le candidat du Front National, Le Pen, est capable de tenir ensemble l'espace d'un scrutin, à la fois des petits commerçants, des petites professions indépendantes et des ouvriers. Pas n'importe quels ouvriers. Bon. Ça, dans l'histoire sociopolitique et dans l'histoire électorale, c'est un petit miracle. Bien, ce petit miracle est rendu possible par le fait que c'est un parti de droite radicale, mais aussi un parti marginal.
Mais je pense aux travaux, là pour le coup, sérieux, parce que de très longue durée, de Michelin et Simon, qui montrent bien, effectivement, quand ils font des échelles, que c'est la courbe se croise complètement sur la question de la méfiance envers les élites politiques, envers l'offre politique. Le nombre, notamment dans les milieux populaires et les catégories peu diplômées, de personnes qui déclarent ne plus avoir confiance dans la capacité d'action des hommes et des femmes politiques, que la droite et la gauche, finalement, c'est la même chose. Et finalement, ça revient aussi à l'idée de vote sans illusion, qui n'est pas forcément totalement la même chose que ce que vous appeliez il y a encore quelques années le vote des investis. Parce que ça se généralise par rapport à...
Oui. Il y a toujours des votes désinvestis, tous les votes ne sont pas désinvestis. Les votes désinvestis étaient, je pense, déjà des votes sans illusion, mais maintenant on a des votes investis qui sont sans illusion. Et dernière chose qu'il faut...
La différence entre votes investis et désinvestis,
Bah le vote investi, c'est le fait d'attacher de l'importance à son vote, d'y réfléchir à l'avance, d'en discuter, de peser pour ou contre. Bon. Des investis.
De s'en souvenir.
Non, mais je dis ça.
Non, mais indicateur très simple. Indicateur très simple de s'en souvenir.
Et le vote des investis, c'est le fait qu'au dernier moment, on choisit parce qu'il faut voter. Il y a des gens qui votent parce qu'ils ont un choix, et il y a des gens qui choisissent parce qu'il faut voter.
Je vais faire une petite parenthèse là. Je suis frappé, moi je suis de l'Est, là, moi, de cette circonscription de Forbach. Où j'ai ma sœur qui a voté Front National, et je viens de téléphoner à mon neveu, là, parce qu'il vient passer des vacances chez nous. Je lui ai dit, dis-moi d'abord pour qui t'as voté, Front National. Bon, c'est vrai que ma sœur, elle est mariée à un mineur, mon père était mineur, et dans mes vagues souvenirs, j'entends encore mon père dire, il est mort depuis longtemps, le pauvre, c'est que Hitler, c'était peut-être pas bien, mais il y avait de l'ordre. Alors, bon, et je suis surpris que dans les explications que tu donnes, là, enfin, je suis surpris, je suis un peu étonné, qu'il n'y ait pas cette notion, est-ce qu'elle n'a aucun sens ou pas? Parce que dans l'Est, hein, parce qu'il faut bien expliquer le vote régional aussi. Hein. Là-bas, cette culture quasi-germanique, là, quand même, dans l'Est, hein, c'est, on parle un patois allemand là-bas. Ouais. La quête de l'ordre, elle est très importante. Ouais, et je me demande si Le Pen, si, au moins dans cette région, s'il n'incarne pas.
Tu as des segments du conglomérat Le Pen qui sont sensibles à la question de l'ordre, ouais. Moral. T'as des segments qui sont extrêmement sensibles à la question de l'impôt, du prélèvement fiscal, des fonctionnaires, des politiques sociales, de l'État. Voilà. Ouais, bon, t'as des gens qui sont extrêmement sensibles à la question d'immigration. Voilà, bon. C'est pas, tout le monde ne pense pas la même chose. Voilà. Ça, c'est important, même s'il y a des mécanismes d'homogénéisation. Et la dernière chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à peu près la même chose que des électeurs Le Pen, qui le disent,
qui votent pas,
et qui ne votent pas Le Pen. Et qui peuvent voter UMP, Sarkozy, et même des choses, des choses plus surprenantes encore.
Et pour en revenir à ce que tu disais tout au début, là, sur cette nouvelle topic à la mode, l'insécurité culturelle au principe du vote Le Pen, ça c'est vraiment typiquement le topos politologique qui commence, qui est parti des Pays-Bas, je crois. Avec l'idée qu'on pourrait faire une démarcation très claire entre un vote Front National alimenté par l'insécurité économique, donc la peur de perdre son emploi et que les immigrés prennent cet emploi, et l'insécurité culturelle avec l'idée que c'est tout un mode de vie qui vient le foulard, la nourriture, etc. Et on va commencer à trouver quelques indices pour bien faire l'opposition entre ces deux types d'insécurité. Ce qui, quand même, est d'un très haut degré d'irréalisme. Très haut degré d'irréalisme. Je ne sais pas bien comment on arrive à. Alors, sur l'ordre, c'est pareil. L'ordre, on voit immédiatement l'insécurité au sens, je dirais, presque sarkozyste du terme. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation de très grande anomie en termes de bouleversement. Il n'y a plus de point de repère, ce qui traverse beaucoup le monde des ouvriers, je pense.
Dans l'Est, il n'y a pas de problème de sécurité, au sens où ça peut exister dans la banlieue parisienne.
En tout cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la très forte politisation de ces questions de sécurité, au sens strict du terme, et des questions de valeur, fait que ça a une plus grande importance dans la campagne électorale que les questions de répartition des richesses.
Parce que on a un peu travaillé, la première région, au premier tour en tout cas, au Échati, il faudrait qu'on y revienne. Ce qui prouve bien le caractère très conglomérat et très frayable de l'électorat. On passe au cinquième rang et ils perdent à peu près la moitié de leurs électeurs.
Le premier tour des présidentielles et le premier tour des législatives.
Quand on raisonne comme il faut raisonner en termes de nombre de voix, et pas en nombre
de fois.
Et si on travaille sur l'Aisne par exemple, là où le Front National obtient ses plus forts scores, c'est là où il y a eu le plus d'industrialisation à la campagne, avec un taux de chômage qui est désormais le taux de chômage record, qui, avec une désertification des zones rurales, bon, qui est quand même tout à fait fond. C'est-à-dire c'est plus aucun commerce, fermeture des hôpitaux de proximité, plus de médecins, plus d'écoles. Donc, on a un sentiment d'abandon complet hein, de la puissance publique et qui entraîne, à mon avis, une paupérisation des liens sociaux. Parce que, bon, une sortie d'école, c'est là où tu vas discuter avec les autres parents. Un bistrot, c'est là, ou un commerce, c'est là. On se retrouve dans des zones où, effectivement, les individus sont véritablement tout seuls. Avec, pour le coup, une influence probablement immédiate, c'est-à-dire sans médiation, des grands médias ou des discours les plus simplificateurs. Ça, je crois que c'est une donnée qu'il faut véritablement prendre en compte, c'est-à-dire le fait que la notion de groupe primaire, où continue à se forger l'essentiel des orientations politiques, en tout cas des votes, elle est quand même, elle prend un grand coup dans l'aile, hein, il y a une sorte de dilution des groupes de travail, des groupes de voisinage, voire des groupes familiaux, de par des phénomènes économiques et sociaux massifs comme le retrait des services publics et la paupérisation. Et je parlais tout à l'heure de la capacité dans laquelle on est maintenant de se raccrocher à un million de variables lourdes. Il y en a une sur laquelle on peut se raccrocher, et là, sans risque de se tromper, hein, c'est le caractère désormais très très rural du vote Le Pen. Là, il suffit de reprendre les résultats du ministère de l'Intérieur, les vrais résultats. En plus, maintenant, nous sommes donnés faire des tri très très facilement. Et c'est tout à fait stupéfiant. Ça varie hein, de façon tout à fait linéaire avec la taille de la commune.
On finit sur le Front National.
Oui, il y a une chose aussi
deux ou trois autres questions.
Je pense que c'est important de le dire dans une revue comme la vôtre. C'est, bon, d'une part, les dispositifs d'enquête, dont on a dit qu'ils étaient extrêmement grossiers, bon, ils donnent rarement la parole aux électeurs eux-mêmes. Bon, ça, c'est un premier point. Mais il leur arrive de donner la parole. Et à ce moment-là, il y a un problème dont on ne parle pas beaucoup, qui est l'illusion du communisme linguistique. C'est-à-dire l'illusion que tous ceux qui parlent français partagent la même langue. Alors ça, c'est une grande illusion. Parce que, par exemple, souvent, quand on fait des entretiens avec des gens des classes populaires, ils vont dire « je suis raciste ». Alors quand on dit « je suis raciste », un intellectuel, nous, ensemble, nous tous, là, tous les quatre, on comprend quelque chose. Mais on ne comprend pas ce que dit la personne. Quand quelqu'un de milieu populaire dit « je suis raciste », il veut dire simplement « je vais vous dire qu'il y a trop d'immigrés ». C'est ça que je vais vous dire. Oui. Bon. Et donc, nous, c'est un truc qu'on a vu quand on a enquêté sur le rapport à l'Europe. Mmh. Effectivement, dans les milieux populaires, on va avoir parfois un discours critique sur l'Europe qui va emprunter des éléments de justification d'apparence nationale. D'apparence nationale. Justement, il ne faut pas se laisser piéger par l'apparence. Parce qu'ils vont vous dire, par exemple, l'Europe, c'est l'euro. Alors l'euro, ils n'aiment pas du tout. Pourquoi ils n'aiment pas du tout l'euro? Parce qu'ils ont le sentiment, à tort ou raison, que ça les a appauvris. Mais des fois, il va y avoir des justifications en disant « c'était mieux avant, quand on était entre nous avec notre franc ». En fait, ce qu'ils veulent dire, ils n'ont pas de pensée monétaire. C'est une illusion de penser qu'ils ont une pensée monétaire. Ils veulent dire simplement que c'est... qu'ils étaient moins pauvres avant, c'est tout ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc, il faut faire très très attention, hein, les électeurs du Front National vont tenir un discours qui est interprété à l'aune des catégories intellectuelles, à l'aune du sens que les intellectuels donnent à ces catégories. Mais ils ne sont pas le sens que donne le locuteur, dans beaucoup de cas.
Dans le même ordre d'idée, là, tu ne pourrais pas reprendre un peu aussi cette question du rapport aux politiques qui n'est pas le même le rapport à ce qu'est la gauche, ce qu'est la droite. Enfin, faire un truc un peu là-dessus.
Oui, ben, si tu veux, d'abord ce qu'il faut dire, c'est que le rapport aux politiques est extrêmement variable selon les citoyens et dépend de beaucoup de facteurs. Un facteur extrêmement important, c'est, pour parler simple, le niveau d'éducation. Bon. Donc le rapport aux politiques varie beaucoup selon le niveau d'éducation. Alors qu'est-ce qui varie? Bah, tout. Bon. Et par exemple, la capacité à entrer dans un mode de pensée généralisé. Ça c'est un privilège social, d'être capable d'entrer dans un mode de pensée généralisé. C'est regarder les choses de haut. Et d'être capable de partager le débat avec justement ceux qui sont capables de regarder les choses de haut, c'est-à-dire les dirigeants, les généraux. Bon. Donc il y en a qui sont capables de le faire, et puis il y en a qui ne sont pas capables de le faire. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Bon. Alors l'erreur, c'est d'imputer ce mode de pensée généralisant à tout le monde.
Ce que font les sondages.
Ce que font les interprètes des sondages. Aidés en cela par la technologie des sondages qui homogénéise des réponses qui ont l'apparence de l'homogénéité, mais qui en réalité sont produites selon des logiques complètement différentes. Bon. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de spécialistes de sciences politiques qui procèdent à des interprétations ethnocentriques du vote pour la droite radicale. Ethnocentrique au sens où ils leur imputent un mode de pensée généralisant qu'ils n'ont pas. On peut le regretter, mais qu'ils n'ont pas. Hein, bon. Donc, par exemple, ils vont leur imputer une espèce de rejet d'une construction supranationale qui procéderait d'un attachement à une intégration nationale et à une identité nationale. Qui peut correspondre apparemment parfois à des bribes de discours, mais à condition de donner cette interprétation intellectualisante à ces bribes de discours qui en réalité sont produites selon une logique complètement différente.
Mmh. Quelque chose à dire là-dessus, Patrick ?
Non, moi j'étais encore sur la précédente conversation sur. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on réfléchisse sérieusement à la fréquence des entretiens. Ou des électeurs même épisodiques du Front National nous disent Marine Le Pen, elle nous comprend, elle parle quelque chose qu'on comprend. Ça c'est quand même, voilà.
Elle parle cherche. C'est ce qu'ils disent de Mélenchon aussi d'ailleurs, certains.
Hein. Pas, les mêmes.
Pas tous, non,
c'est
pas tous. Mais c'est là-dessus
c'est pas je les pense mêmes.
Qu'on peut... Ouais, c'est beaucoup plus intellectualiste, ouais. Je pense.
Parce que justement, enfin, on ne peut pas dire des choses simples sur l'électorat du Front National, et donc il y a des conglomérats, c'est vrai aussi.
Ça, c'est des choses simples, ça.
Non, mais on ne peut pas dire c'est pas les prolos qui votent Le Pen et les bobos qui votent Mélenchon. D'ailleurs, les bobos, ça a déjà été écrit par ailleurs, par Eric Grigolinski, c'est n'importe quoi. Enfin, catégorie fourre-tout. J'ai perdu mon idée. En tout cas, on peut quand même. Cette élection, elle s'inscrit. Elle ne s'inscrit pas totalement, mais enfin, elle ne remet pas non plus en question un décrochage des milieux populaires par rapport à la. Enfin, un survote des milieux populaires pour la gauche. Elle ne l'infirme pas, mais elle ne.
C'est un nouveau record. Un nouveau record, en fait,
pour les législatives.
Ouais. Pas seulement. On a l'idée des élections présidentielles comme étant des élections de très haute intensité où tendanciellement les inégalités de rapport à la politique peuvent, semble-t-il, s'est passé. En clair, 2007, il y a moins de 15% d'abstention au premier tour, et avec la géographie du temps, il faut surtout pas avoir beaucoup de chômage. Quand tu regardes les cantons, les villes, dans les bureaux, des écarts, une dispersion autour de cette moyenne qui est finalement assez faible. Voilà, j'ai simplement repris les 50 cantons les plus abstentionnistes. Hein. C'est évidemment sans surprise, c'est Calais, Roubaix, Forbach est dedans. 8 cantons de la Seine-Saint-Denis, Marseille-Nord, etc.
Donc plus fort taux de
d'abstention, plus fort d'abstention au premier tour, non, au premier tour des présidentielles de
2012.
Et qui sont les mêmes pour le premier tour des législatives de 2012.
Ils sont encore et dans oui. Oui,
mais à moins 20 quand même.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que globalement, tu as une abstention qui progresse de 4 points du premier tour
pour
de
2007.
De 2007
à... premier tour de 2012. Je prends le premier tour, parce que le deuxième, après, tu peux dire.
Mais c'est beaucoup relativement entre. Oui. Plus cette progression de 4% entre 80 et 84 qu'entre 50 et 54.
Donc, tu as 4 points de plus de 2007. On partait quand même de très bas en termes d'abstention à 2012. Sur les 50 cantons que j'ai recensés, donc tu prends les 50 des abstentionnistes, on est à plus 8 points. Et quand tu retravailles ensuite sur les législatives, tu as effectivement à peu près 24 points d'écart entre les présidentielles législatives au niveau national, et tu passes à 30-35 pour les cantons les plus populaires. Donc, ça veut dire que pour une partie des habitants de ces cantons, de ces quartiers populaires, l'élection présidentielle n'est plus cette élection un petit peu unique, hein, où exceptionnellement c'est passé. Il faut ajouter à ça le fait que, bon, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais le fameux phénomène d'inscription record, hein, qu'on avait connu en 2006, a reculé à hauteur, sur le titre, hein, c'est un des trucs qu'on a, mais c'est pas définitif, d'à peu près un tiers. Oui. Un tiers de primo inscrits notamment.
Mais ça, ce n'est pas corrélé au groupe de Front National. Ça existe dans les...
Non, mais là, on parlait
non,
de...
Non, mais c'est ces abstentions-là. Il y a un rapport avec le vote Front National ?
Il y a un rapport avec, effectivement, le taux d'abstention et le vote FN. Oui, oui, ça c'est sûr.
C'est plutôt dans les zones les plus abstentionnistes que... C'est dans certaines des zones les plus abstentionnistes que le Front National fait certains de ses meilleurs résultats.
Ah oui, d'accord. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il ne fait pas les résultats.
Ce qui explique aussi les écarts avec les partis de
Peut-être qu'il faut mettre vraiment les points sur les i, sur des points importants, parce que le corollaire de ce que dit Patrick, c'est que le taux de participation électorale est maximum dans les bons quartiers. Voilà, ça c'est un truc important. Et le rapport aux politiques, il est variable socialement, et que l'implication dans le politique, c'est un privilège de classe.
D'accord. C'est le sens caché, quoi.
C'est un privilège de classe. La maîtrise du politique, c'est un privilège social, qui se traduit notamment par le fait que dans les beaux quartiers, on va voter. Et y compris à Paris, hein, regardez les différences entre l'Ouest et l'Est, vous voyez déjà des différences systématiques. Hein. Bon. Donc les catégories dominantes, elles ont un rapport de familiarité, d'aisance, de naturalité avec le politique. Elles sont à l'aise avec ça.
Mais les catégories dominantes sont elles-mêmes très plurielles. Oui. Parce que bon, je pense notamment effectivement, il y a beaucoup de commentaires basés sur la géographie électorale, visant à montrer donc, ce que tu montrais, donc, les zones rurales sinistrées, ou les zones urbaines, industrialisées, sinistrées, ou les banlieues, on va dire, et les quartiers de centre-ville un peu gentrifiés, où le vote Front de Gauche était au-dessus de sa moyenne nationale. Donc c'est effectivement une réalité.
Il y a une corrélation entre le prix du mètre carré et la probabilité de participer aux élections. Il y avait une corrélation entre le prix du mètre carré et la probabilité de voter oui en 2005.
Mais ça, dans le papier, je pourrais te renvoyer. Moi, je travaille sur un échantillon de 200 villes les plus urbaines. J'ai eu revenu, ça ne vaut pas grand-chose, dans les revenus fiscaux moyens par habitant. Pas grand chose, en fait, c'est très très une belle dispersion. La notion de moyenne de très grand chose. Mais là, encore, on a un truc parfaitement aligné.
Donc en clair, il y a une corrélation plus forte entre revenus et participation qu'entre revenus et vote partisan. C'est plus. Oui. C'est ça. On peut l'affirmer, ça. Enfin, d'après.
Encore que. Vous en avez un tableau, si le revenu, il est pas mal non plus. Parce que là, ça fait partie des variables d'Adaboum qu'on a considérées comme tellement grossières qu'il fallait désormais complètement les ignorer. Et par exemple, plus le revenu fiscal moyen augmente, plus votre Bayrou augmente, plus votre Eva Joly augmente, plus votre Sarkozy augmente. Et il y a une corrélation inverse sur le vote Le Pen et le vote Mélenchon.
Le vote Mélenchon, la corrélation inverse est nette ?
Oui.
C'était relativement indiscriminé avec le revenu ?
Non, c'est pas... Enfin, moi, sur ce type de statistiques...
Et public-privé, là, tu peux aussi là, en géographie électorale, tu peux pas...
Non, là, on est en train d'essayer de le faire, mais c'est vraiment compliqué. Parce qu'on dit, bah là, l'INSEE ne file pas les résultats des derniers recensements. Donc là, moi, les dernières données complètes que j'ai, c'est 99. Là, je peux faire en groupant public-privé. Mais on est déjà un petit peu en soutenant la structure sociale, elle n'est pas la même. Donc ça ne bouge pas beaucoup.
Non mais attends, je reviens un instant, j'ai un point précis sur de la corrélation directe et inverse entre votre Mélenchon et revenu quoi. En fait,
au niveau écologique,
je pense.
Au niveau écologique, bien sûr.
Au niveau,
je travaille sur le revenu moyen d'une ville par rapport à, à des autres.
Ce qui ne veut pas dire que c'est les plus pauvres qui vont nous manger.
Voilà, c'est ça. Oui, parce que enfin dans l'équipe de Mélenchon, ils sont. Au contraire, hein, il regrette que ce soit quand même un milieu populaire, par exemple, enfin, les plus faibles revenus ne votent pas.
On le voit bien là encore en faisant des analyses de géographie électorale vraiment basiques, quoi, hein, c'est-à-dire à la fois Mélenchon, d'abord il a fortement nationalisé le vote,
Oui, ça, c'est clair.
Il n'y a pratiquement plus. Là, en raison sur les circonscriptions, je t'en donne les chiffres aussi. Je crois qu'il y a 3 circonscriptions au total sur 580 boîtes, ou 577, où il fait moins de 5%.
Ah non, c'est ça, il y a des départements entiers quand même.
Moins de 5%. Sur les circonscriptions au premier tour, il n'y a que 3 circonscriptions.
Présidentiel, hein, pas au législatif.
Et inversement, tu dois, t'as à peine.
Je vais compter les départements où les départements où il a moins de 5%. Non, où Mélenchon a moins de 5%. Je l'ai écrit dans Savoir Agir. D'ailleurs, j'en trouve.
Il y a 3 circonscriptions où il fait moins de 5%. Et il y en a que lui, il fait plus de 20%.
Mais non, mais c'est parce que tu as fait par département et pas par. C'est pas le même.
Alors, non, là, c'est sur les circonscriptions, c'est encore plus fin. Ça.
Oui, d'accord, mais on ne peut pas avoir moins de circonscriptions que de départements.
Non, mais je. Bon, enfin,
oui, oui, d'accord.
Donc c'est très concentré.
Donc je me suis planté, quoi.
Et par contre, aux législatives, hein, c'est présence ou pas d'un notable, d'un sortant, etc. Et donc quand on reprend le vote au présidentiel premier tour, outre la nationalisation, c'est-à-dire le fait qu'il y a une très faible dispersion finalement, il est surreprésenté dans les anciens bastions communistes, mais pas de façon extraordinaire. Hein. Et le phénomène vraiment nouveau par rapport à l'ancien vote communiste, c'est une présence quand même significative, hein, plus de 10%. Dans les grandes métropoles, il y a probablement pas mal d'étudiants, etc., où le PC était d'une faiblesse insigne. Enfin, tu prends les résultats sur Strasbourg, Rennes, Angers, etc. Mélenchon est à 12-13, donc on voit bien qu'il y a quand même capture de nouveaux segments.
Il y a un truc sur lequel il faut insister, c'est qu'à la fois, il y a diverses catégories de spécialistes des questions politiques, et notamment de spécialistes du commentaire politique, qui partagent le présupposé d'un rapport unique et universel aux politiques. Y compris nous, dans notre petit secteur académique, le principal clivage, c'est celui-là. C'est ceux qui pensent qu'il y a un rapport universel unique aux politiques, qu'on soit ouvrier, intellectuel ou grand patron, on partage le même rapport aux politiques, qui est un rapport d'implication politisé généralisant. Ça, c'est le présupposé de masse contre lequel nous, on se bat, nous très très marginaux. Et donc, ce présupposé, il est réaffirmé au moment où les inégalités devant le politique n'ont jamais été aussi affirmées. Ce qui apparaît, par exemple, quand on regarde les chiffres d'abstention, premier tour des élections législatives de 2012, c'est que l'écart entre les beaux quartiers et les quartiers populaires n'a jamais, jamais été aussi important.
Oui, les inégalités de participation se creusent.
Et dans le secteur du Parti communiste du Front de Gauche, on n'est pas suffisamment sensibilisé à ça.
Mais en même temps, ces inégalités qui se creusent au niveau de la participation, ça ne veut pas dire que les différences de vote entre certains segments du milieu populaire et d'autres catégories sociales se creusent autant. Parce que les électeurs du Front National ne sont pas tous issus du milieu populaire. Et ça, les commentateurs dont tu parlais, ils n'en parlent jamais. Ils parlent souvent des 30% d'ouvriers qui votent FN, mais pas des 27% d'agriculteurs ou d'indépendants qui votent FN.
Ils ont tendance à homogénéiser de manière un peu cocasse, parce qu'ils constatent, par exemple, qu'il y a une corrélation négative entre le niveau d'instruction et la probabilité du vote.
Au milieu populaire, c'est tout.
Ils ont conclu que donc, plus le niveau d'éducation baisse, plus la probabilité de voter Le Pen. Alors ils ont conclu que, en gros, c'est tous les cons qui votent Le Pen. Quoi. C'est-à-dire, propagande simpliste, séduit les esprits simplistes. Ouais. Moi, une fois, j'ai fait un entretien avec un mec qui était un ingénieur d'école centrale et qui était électeur Le Pen depuis le début. Quoi.
Ouais. Voilà. Ils ont bien des énarques.
Voilà. Mais juste alors.
C'est une manière d'homogénéiser.
C'est le même mépris de classe qu'on rencontre pour les périurbains. Il y avait un supplément du Monde qui était pas mal, une sorte de digest de tout ce qui était écrit sur les périurbains, mais on en reste confondu.
Et ça, sur le mépris. Elle raconte ça depuis.
Et donc maintenant, c'est du billard à trois bandes, c'est Front National, périurbain, prolo. Mais à chaque fois, le même mépris et la même bonne conscience.
Chasseur.
Ouais, c'est fini.
Les gros trucs.
Les chasseurs, c'est quoi ça? C'est des ruraux.
Mais alors justement, moi, là-dessus, c'est une question que je voulais absolument poser. Propagande simpliste, lecteur simpliste, il y a quelque chose quand même qui a été extrêmement prégnant, encore plus que d'habitude, encore plus qu'en 2002, c'est l'usage du mot populisme, alors que ce soit par les journalistes, par les candidats eux-mêmes comme une invective, ou par les commentateurs plus ou moins autorisés sur les médias. Donc renvoyant dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, je voudrais bien que vous reveniez là-dessus, hein, sur cet usage, cette inflation hein, du terme populisme et cette association Mélenchon-Le Pen. Alors même que ce sont les mêmes qui disent que d'un côté on a des prolos et de l'autre on a des bobos qui votent pour
eux. Il y a deux aspects d'ailleurs. Il y a le fait qu'on est réunis sous populisme ou alors qu'on est réunis sous le terme extrême.
Extrême,
c'est
bien
pas
sûr.
Tout à fait la même chose.
Comme si effectivement le peuple, les gens du peuple.
Un peu populisme, c'est pas une catégorie d'analyse, c'est une catégorie à analyser. C'est une catégorie de lutte. C'est une catégorie stigmatisante. Donc il faut enfermer l'adversaire dans ce stigmate. Tu es populiste. Et du coup, c'est une opération commode pour mettre dans le même sac la gauche et la droite radicale. C'est pas la première fois dans l'histoire. Il y avait le même, par exemple, avec totalitarisme. Totalitarisme, c'était une manière de mettre aussi dans le même sac le stalinisme et le nazisme. Donc dans l'histoire, il y a beaucoup de tentatives comme ça, réitérées.
Mélenchon avait répondu assez habilement là-dessus, en disant, de toute façon, c'est un concept qui vaut rien, et puis on peut le réinvestir de façon complètement positive, à la manière des populistes russes et tout.
Oui, ce que montrait le Colbert, c'est qu'au départ, c'est un terme de
maladie.
Moi, quand j'essaie de faire l'éducation populaire, en meeting et tout, pour me traiter populiste, c'est plutôt flatteur pour moi.
Non, mais surtout, ça ne veut rien dire. C'est une catégorie fourre-tout qui n'est jamais vraiment élucidée. Donc, c'est un instrument de lutte.
Oui, voilà, c'est ça. Et cette tendance alors à rejeter les extrêmes les flammes de l'enfer, c'est un phénomène ancien, donc. Et est-ce qu'on pourrait... Est-ce que ça se manifeste aussi ailleurs qu'en France? Enfin, est-ce que c'est vraiment un phénomène avéré en France et qu'en est-il dans les autres pays?
À mettre dans le même sac l'extrême gauche.
Oui, enfin, à dire qu'il y a des gens sérieux en politique et puis il y a les extrémistes des deux bords.
Oui, mais
comment on peut rattacher ça à la pensée politique?
Partout il y a une gauche radicale un petit peu forte, le problème se présente. C'est un instrument de stigmatisation de la gauche radicale. Donc là où la gauche radicale est faible, le problème se pose pas. Mais c'est comme le mot extrême. Décider que quelqu'un est extrême. Amusez-vous à regarder dans un dictionnaire analogique ce que veut dire extrême. Ça veut dire immodéré, intempéré. Enfin, c'est fascinant de voir ça. Donc dire que quelqu'un qu'il est extrême, c'est une stigmatisation très forte.
Qui consiste vraiment à ériger une norme, un étalon, à l'aune de.
Oui, puis c'est surtout
duquel tous les autres vont être.
C'est un langage politologique même très simple, mais qui est complètement inadéquat pour rendre compte de la manière dont les gens pensent réellement. Donc on a tous plus ou moins dans la tête échelle à cette barreau qui va d'extrême gauche à l'extrême droite. Quoi. Et après, c'est quand même des choses qui nous sont arrivées en entretien, des gens qui hésitaient entre Bayrou et Le Pen. Bon, alors évidemment, eux sont complètement irrationnels, puisqu'ils sont en train d'hésiter entre l'extrême droite et l'extrême centre. Comment est-ce qu'on peut? Et après, quand les gens commencent à développer un discours sur le fait que tous les deux sont marginaux, tous les deux leur semblent... ne pas être désétabli, ne pas renvoyer la classe politique ordinaire, avec des petites anecdotes, bon, la baffe qu'avait donnée Bayrou il y a 5 ans, qui continue à revenir dans les discours, c'est très marrant, ça a beaucoup marqué, bon, le fait que Marine Le Pen, elle parle, un langage qu'on comprend, etc. Bon voilà, quoi. Et l'instant russe est assez construit chez des gens qui, bon, rapport évidemment assez distant, assez oblique à la politique et auquel on oblige à parler politique, Donc on oblige à se justifier, alors que quand ils ont à voter, ils n'ont pas à le faire. Et là, vous voyez effectivement que cette construction extrême gauche, extrême droite, le centre au milieu, c'est pas du tout la manière dont les gens raisonnent. Enfin, donc pas mal de citoyens, notamment les plus distants, raisonnent.
Oui, mais là... ce qu'il faut dire un mot sur cette catégorie populiste, c'est un instrument de lutte auquel un ensemble d'experts, enfin d'essayistes, essayent de donner une apparence de validité intellectuelle. Et faisant ça, ils donnent une légitimité intellectuelle à ceux qui ont un intérêt à stigmatiser et donc à écarter, à marginaliser ceux qu'ils désignent comme populistes.
Mais le terme populisme, enfin c'est ce que montre Nicole Revel, il sert à stigmatiser non seulement les candidats qu'on désigne et qu'on stigmatise comme populistes, mais aussi ceux qui votent pour eux. Oui. C'est ça la grande affaire, c'est que ça permet autant de discréditer les gens du peuple qui voteraient mal, parce qu'ils voteraient Front National, ou qui voteraient Front de Gauche, ou qui voteraient communiste. C'est hyper intéressant. C'est le peuple vote mal, changeons le peuple. Quoi. Et d'ailleurs, de ce point de vue, l'abstention, ça ne pose pas forcément beaucoup de problèmes pour les législatives.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait.
Moi, j'ai été très surpris de... Bon, évidemment, il y a un petit discours déploré le soir même, les 5 premières minutes après 20h. Et après, on passe à autre chose.
Complètement,
alors qu'on a quand même le taux d'abstention le plus élevé de toute l'histoire de la 2e, 3e, 4e, 5e République, avec, comme le disait Daniel, des écarts qui, sur un scrutin dit national, n'a jamais été aussi important entre le quartier, les groupes sociaux, etc. Donc, effectivement, je ne pense pas que ce soit un énorme problème. Bon, moi, toujours en m'appuyant sur le sondage Via Voice qui vaut ce qu'il vaut, après, quand tu recalcules sur 100 inscrits, combien se sont abstenus, combien ont voté à gauche, combien ont voté à droite, t'as quand même un choc quoi, sur le deuxième tour par exemple. On s'aperçoit que par exemple sur les ouvriers, si on prête foi à ce type d'enquête, on est à près de 70% d'abstention. Alors évidemment la gauche fait 20 et la droite fait 10, mais c'est pas du tout la même vision qu'on a que quand on travaille comme on le fait ordinairement sur des suffrages exprimés. Et ça, là encore, il y a très très peu de gens, alors que les chiffres sont disponibles, mais très peu de gens qui osent sortir ça.
Ouais. Parce que justement, ce ne sont que des prolos qui votent Front National, est alimentée par la réflexion uniquement en suffrage exprimé, pas en pourcentage d'inscrits, puisque notamment, comme c'est dans les milieux populaires où on a les taux d'abstention les plus...
Et puis,
c'est temps, on doit pas être dans la délégation tout un... Alors après, il nous manque des études à la Michel Simon, comme dans l'ancien temps, pour essayer de mieux reconstituer les différentes fractures à l'intérieur du monde des ouvriers, des inconnus, des fonctions, des appartements syndicales, des villes de l'échéance.
Mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes.
Du niveau de précarité des emplois, du caractère public ou privé de ces emplois.
Et l'origine efficace.
C'est ça, quand même. Il y a presque un trait d'égalité entre ouvriers et immigrés pour beaucoup de gens. C'est quand même les ouvriers qui voient.
Il y a quand même une partie des gens qui sont objectivement ouvriers et qui, dans leur tête, ne se vivent pas comme étant français.
Et qui ne votent pas. Ben oui,
éventuellement, on s'intéresse très peu à la politique, mais qui s'intéressait un peu plus au Proche-Orient qu'à la politique française. Ils sont un peu plus informés d'OLP que de...
Et ça, vous l'avez vu en entretien, vous l'avez saisi en entretien,
Par exemple, on a des gens qui travaillent sur des jeunes dans un lycée professionnel. On voit ça. Hein. Les jeunes issus de l'immigration ne sont pas français dans leur tête. Ils ont une raison, je dirais, presque supplémentaire pour s'intéresser à la politique. Et ils s'intéresseront un tout petit peu plus à ce qui se passe en Palestine. Un tout petit peu, hein. Plus à ce qui se passe en Palestine que ce qui se passe en France. Ça, c'est un élément qu'il n'y a pas chez Michel Simon.
Et est-ce que ça... Parce qu'il y a quand même une histoire de l'immigration, l'immigration italienne, espagnole, tout ça, est-ce qu'elles sont passées par la même...
Ça, on n'a pas le dos.
Et que les Italiens qui se faisaient taper dessus au même siècle...
un degré de politisation plus fort dans ces immigrés.
Mais il y avait quand même une plus forte. Est-ce qu'on peut dire, qu'il y a une plus forte politisation de l'identité nationale depuis une dizaine d'années, et au contraire, une minimisation de la question des identités sociales, des identités de classe, de la conscience de classe.
Je ne sais pas.
En tout cas, du côté des acteurs politiques dominants, il y a une très forte politisation de l'identité nationale, des questions de mode de vie.
Je ne sais pas. C'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que un immigré italien ou polonais se vivait comme plus étranger que ne se vit maintenant un immigré africain ou maghrébin, je ne sais pas.
Il n'y a pas de travaux là-dessus, si ?
Non, je ne sais pas. Ce que je vois par exemple, un truc très très impressionnant, comme toujours on est impressionné par ce qu'on... Donc parmi les gens que j'interroge régulièrement, comme je l'expliquais l'autre fois, j'ai une jeune professeure des écoles, titulaire remplaçante, qui sort d'un grave traumatisme, je crois que j'en avais parlé tout à l'heure. Elle a fait un emplacement dans une école primaire, c'était en CM1 ou CM2, je me souviens plus, au métro Ourcq, donc c'est dans le 19e. Mm-hmm. Et elle explique, donc c'est des gamins qui sont presque tous issus d'immigration africaine, subsaharienne, maghrébine. Bon. Et par exemple, quand elle traite le programme et qu'elle parle par exemple des pays pauvres et des pays riches, ils se sentent agressés.
Mmh. Bien sûr. Enfin, je dis bien sûr. Parce que je...
Donc, est-ce que c'était la même chose pour les Italiens ? Pas sûr.
Je sais. Bah, ma question, c'était plutôt la politisation par les acteurs de la compétition électorale, des questions je ne sais pas comment dire, d'identification nationale, etc. Je pense que ça joue quand même dans l'offre électorale et donc dans ce qui est dissible, pensable par les électeurs.
Ça a été le grand mérite de Mélenchon, si on peut lui rendre cet hommage, que d'avoir réintroduit dans son discursif, mais c'est jamais assez signifiant. Tu vois, c'est un principe de clivage qui devenait complètement obsolescent, en tout cas dans le langage politique.
Oui, faire attention, comme ce que je disais tout à l'heure, l'illusion du communisme linguistique. C'est pas parce qu'il y a un travail de construction. Bourdieu disait travail de vision des divisions du monde social. Donc, effectivement, les acteurs politiques, ils donnent à voir les divisions du monde social d'une certaine manière. Bon. Et éventuellement, cette vision des divisions du monde social, elle peut être appropriée par certains. Par certains, pas par tous, ça c'est une certitude, mais par certains dans les milieux populaires, ça ne veut pas dire qu'elle est appropriée de la même manière. Ça ne veut pas dire que la réception est adéquate à l'émission, si je peux le faire comprendre comme ça. Il y a toutes sortes de mécanismes de retraduction, enfin, c'est très...
Ah, je crois que c'est... j'avais entendu à vous dire ça, ton ennemi n'est pas l'immigré mais le banquier. Et puis c'est approprié de 48 manières différentes. Enfin, il y avait quand même un effort didactique qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps.
Je trouve pas, nous on discutait là au sein de SPEL dans les milieux populaires, les 75% là, je prends tout. Des gens qui trouvaient ça profondément injuste, bien qu'ils ne soient pas du tout concernés par le truc, l'argent qu'on a gagné, on te pique 75%, c'est beaucoup. N'oubliez pas que c'est l'ensemble des classes populaires.
Oui, mais à contrario, la proposition du Front de Gauche 1/20 d'amplitude de salaire,
au-dessus de je ne sais plus combien, je prends tout.
Ouais, ça marchait pas du tout.
C'est d'ailleurs la proposition du syndicalisme européen, pour une fois.
Ça choque certains.
Parce qu'il y a toujours eu, il faut arrêter d'angélique, il y a toujours eu des fractions conservatrices dans les populaires.
Bien sûr. On en revient à ce que vous disiez au début, de faire attention aussi à
la nouveauté. Qui n'est absolument pas naturel. Tant qu'on ne se sera pas ôté ça de l'idée, de la tête. Bah, disons qu'il y avait quand même un effort de.
Il faut s'arrêter, c'est ça?
Oui, on va s'arrêter, je pense qu'il y a assez. Hein. Bon,
je pense qu'il y a
on
assez.
On va être obligé de un peu de recomposer.
Ah, parce oui, qu'il y avait
si des... tu veux, je t'enverrai
des trucs. Mais oui, alors envoyer des trucs, là, ça fera des tableaux.
Ta sœur qui veut le Front National, qu'est-ce qu'elle fait?
Bah, elle est. Son... Dans l'Est, les femmes travaillent beaucoup moins. C'est comme en Allemagne, quoi. Enfin, si, elle a travaillé un peu. Mais son mari est mineur. Hein. Elle...
Mineur de fer?
Non, non, de charbon à froid.
C'est le... Il est plus mineur maintenant?
Bah, il a été un des derniers. Enfin, lui, il n'était pas tout à fait mineur de base. Il était bout de feu, ça s'appelait.
C'est-à-dire?
Bah, c'est lui qui dirigeait les...
C'est un petit contre-maître?
Avant que... On commence à exploiter, on fait sauter les rochers et tout ça.
Donc il est une petite position de pouvoir local quand même.
Il avait appris ça en Allemagne, il avait appris ça dans l'armée d'ailleurs.
C'est une sorte de petit contre-maître quand même, non?
Non, c'est à part.
Disons, moi je voulais reculer.
Mais elle a voté marché dans le temps.
Sur
c'est pour ça que moi l'idée.
Qu'est-ce qu'il fait?
Sur les commentaires, les principaux commentaires qui ont été faits après.
Artisan,
j'aurais bien voulu te faire parler là-dessus pour finir, mais on parlait de dire là-dessus. Enfin, ça revient un peu à ce que tu avais sur les travaux, l'absence de travaux, tout ça.
Écoute, je vais l'interroger là parce qu'il vient passer les vacances chez nous. Oui. Là, si je trouve des trucs intéressants.
Mais tiens,
je t'enverrai. Parce que... mais là-bas, non, mais c'est pour ça que dans ces milieux-là, que j'ai quand même connu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est vieux. C'est vrai qu'il y a des facteurs que je ne retrouve pas souvent dans les enquêtes. Hein, le fait d'être un peu à part, hein, d'être presque des extraterritoriaux, à mon avis, en Alsace, c'est très fort ce sentiment.
Les Français de l'intérieur.
Non, mais ils considèrent qu'un certain nombre de débats politiques relèvent des Français de l'intérieur. Donc, qui ne concerne pas tant que ça. Hein.
C'est vrai qu'il y a une énigme sociologique qui est la discipline allemande et germanophone.
Ouais, ouais. T'as sur le plan syndical, par exemple, le SNES, hein, depuis maintenant 40 ans, il est dominé par la tendance dite... Enfin, il était, au temps de la FEM, par la tendance dite, comme dirait le monde, enfin, influencée par le Parti communiste. Mais c'est dans toutes les académies, sauf dans l'académie de Strasbourg. C'est-à-dire, là-bas, ça a toujours été des Alsaciens. C'était marrant, les leaders Unité Action, ils s'appelaient Escudero, et le leader UID, il s'appelait Hintermann, ou quelque chose comme ça, j'invente. Hein. Mais donc, et ça joue toujours, cette affaire-là. Hein, je suppose qu'il y a des sociologues qui ont dû regarder ça, mais c'est compliqué. Maintenant, moi, j'ai vu, par exemple, je passe mes vacances dans l'Aveyron. J'étais complètement sidéré de voir dans cette terre traditionnellement de droite, pour la première fois, d'ailleurs, je crois que ça a basculé, mais dans tous les petits villages autour de Saint-Afrique, là, Mélenchon, 17-18%, sans qu'il y ait de campagne. Hein. J'ai mon beau-frère qui est élu. Alors je le félicite, je lui dis, mais t'as bien, parce que lui a voté Mélenchon. Il lui dit, je suis pour rien, hein. Il n'y a même pas eu de tract. Hein.
Ça, c'est un troisième segment pour votre avis.
Ouais, c'est pour ça. C'est marrant, ça.
Pour raison, genre, le communisme rural, là, on ne l'attendait absolument pas. Tu vois, c'est encore dans le cantonnement Lozère.
L'élection présidentielle constitue des conglomérats très personnels, autour d'une personne très spécifique. Hein.
Enfin, d'ailleurs, il avait été élu dans Midi-Pyrénées déjà, Mélenchon, aux Européens. Bon, on s'arrête là.
Et l'Aveyron, il faudrait vérifier les statistiques, mais ce soir de matin, il me semble que c'est un département qui est au sommet de toutes les hiérarchies. Pour les scolarisations, capital culturel, etc.
Ouais, c'était dans le temps. Non, les Bretons, c'est l'académie, au niveau académique. Mais je crois qu'au niveau départemental, hein, parce que c'est pas comme ça.
Je me souviens, à un moment, ça avait même fait l'objet d'un débat national. Pourquoi dans l'Aveyron, ils réussissent si bien alors que c'est des ploucs, alors que c'est des... C'est marrant d'ailleurs, comme phénomène.
Ouais. Oui, toutes les statistiques, tous les indicateurs de scolarisation.
Alors les cathos évidemment disent que en Bretagne et dans l'Aveyron, c'est la concurrence, l'émulation entre école privée et école publique, hein, qui est à l'origine de ça. Mais un des départements qui est tout à fait voisin, là, en résultat, c'est la Creuse, autre département rural, mais là où il n'y a pas d'enseignement privé du tout. Donc l'argument selon lequel en Bretagne,
c'est tous les descendants des 68 arts qui sont allés
dans la région. Non, parce que ça remonte très très loin. C'est des structures qui sont très stables. L'Académie de Picardie est au bas, a toujours été au bas.
C'est vrai que c'est surprenant.
C'est l'alcoolisme,
Et puis les insectes.
Tu sais, moi je ne veux pas jouer comme Todd et compagnie, mais tu prends les coins de l'Aisne, on voit que le plus Front National, tu fais une carte qui est un peu secrète des viols, l'inceste et compagnie, ça marche bien. Tu as comme ça deux arrondissements qui se touchent, l'un en Ardennes, l'autre en Ardennes.
Oui, ils sont chasseurs aussi.
C'est tout en bas de.
Même quand ils ne chassent pas, ils défendent les chasseurs. C'est eux qui avaient failli faire la peau à Pélion.
Bon. Mais il faudrait peut-être qu'on finisse, pour que je finisse là-dessus, sur ce qu'ils vont en faire des enquêtes, tout ça, pour publier dans
le. Oui, mais vas-y.
Non, mais donc là, vous continuez à exploiter donc, les matériaux recueillis. Toi, tu fais tout ton truc sur la géographie. Tu pourras quand même me faire une petite note pour ce que tu fais là, sur les cantons, les machins. Tout ce que tu m'as dit là, parce que sinon.
Je vais t'envoyer 4-5 tableaux. De toute façon, je les ai faits.
Ouais, c'est ça.
Je vais remettre des tableaux.
Parce que là, moi, je ne sais pas. Il faut quand même qu'on réfléchisse.
Je travaillais dessus hier.
À chaud pour.
En tout cas, sur l'extension, donc ils sont prêts. Bon, après, tu vois si tu les mets dans le train. Mais tu verras, je pense que tu trompes sur les moins de 5%. Pour Mélenchon.
Il va falloir que je vais faire un gros bloc sur l'illusion du communisme linguistique.
D'en exprimer, je pense.
Un gros bloc sur. La déshomogénéisation.
Ah bah voilà, tu vas avoir un résultat tout de suite.
Les présidents.
Est-ce que je peux filmer à la fenêtre?
Attends, il y a un truc magique, c'est que d'intérieur, tu envoies des fichiers Excel, canton, département, t'as
plus 4 minutes. Moi j'ai. Je sais pas, tu sais, sur le truc. Ils avaient publié un moment pour chaque candidat en couleurs différentes. Alors peut-être que je me trompe, ou j'ai mal lu. Moi, il m'avait semblé que c'était. Moi, j'avais mis en évidence là ce que tu dis là sur le sur la différence avec le. Voilà. Il y a d'abord eu une forme de reconquête de territoire entier. C'est ce que tu dis un peu. On pourrait avoir l'impression qu'il n'existait plus grand-chose à la gauche du Parti socialiste depuis le déclin du vote communiste. Alors moi, les départements où le Front de gauche n'a pas atteint 5% sont une petite douzaine seulement.
C'est l'Alsace
Oui, l'Alsace, sûrement.
Moi, les trois situations, tu devrais être mis dans l'Alsace et puis le 16e arrondissement.
Non, mais 5%
des exclus. Mais après, il faut toujours calculer en inscrit. Vous êtes raison, en inscrit.
Ah non, mais en inscrit, c'est encore moins.
Toi, tu parles en exprimé ?
Je parle en exprimé.
Ah ben oui, non, mais de toute façon, les tableaux étaient en exprimé. À moins que les tableaux étaient en inscrit.
C'était dans le monde,
ça. Tu sais, c'était les fameux tableaux pour chaque candidat. Tu avais ça.
À Paris, il n'y a pas que le 16e, quand même, où le Front de gauche fait moins de 5%.
Non, pas le Front de gauche, Mélenchon.
Mélenchon, le Front de
gauche. Ah non, après.
Ah non, mais je te parle de Mélenchon, là, du vote Mélenchon. Ah
ouais, parce qu'après, au Échati, tu te retrouves avec 205 qui sont en inscription, où il fait moins de 5%. Et lui, 3 seulement. Ouais. Là, ça fait.
Vas-y, répète tes trucs.
Mais je vais vérifier.
Et vérifier avant de. On ne va pas te mettre en difficulté. Bon, vous avez eu mon mail, là Vous avez encore 5 minutes, là?
Vas-y. Hein? Tu veux qu'on fasse ton topo?
Ouais.
Moi, je vais dire franchement, je n'ai pas eu le temps ce matin.
Non, mais tu peux.
Tu vas pas fumer avec moi?
Non, mais je fais déjà tout le reste.
Alors,
dans quelle mesure est-ce que la.
Sinon, on peut aller boire un café et puis nous rejoindre, non?
Est-ce que la crise a modifié la relation entre la représentation politique et les classes sociales, les mouvements de protestation?
et le système des partis dans votre pays.
Oui.
Bon, alors quelle est la position de la gauche dans le nouveau paysage politique?
La crise.
Et est-ce qu'il a élargi ses bases?
La crise, tu peux dire déjà qu'elle a intensifié le scepticisme politique des investissements, spécialement dans les fractions les plus touchées, donc dans les fractions notamment populaires. Donc ça, c'est un effet, massif. Par ailleurs, la crise a contribué, ça c'est un processus qui était engagé avant, mais à distendre encore plus les liens entre les milieux populaires et la gauche du gouvernement.
Avec un phénomène qui n'est pas dû qu'à la crise, qui est la quasi-disparition des personnages, des professionnels de la politique issus des milieux populaires.
Ouais. C'est un aspect.
Parce que là, tu vois,
c'est pas l'aspect de la crise.
Non mais là, c'est la...
Qui n'est pas dû à la crise. Mais qui
non, mais est-ce que la... Non, mais la grande question qui tarabuste les politiques européennes de gauche, c'est comment se fait-il que dans cette situation-là, on ne progresse pas de façon foudroyante. Et c'est ça qui les tracasse, en fait.
Ben parce qu'ils sont associés, dans l'esprit des gens, ils sont associés à cette crise. Ah oui. La gauche de gouvernement.
La gauche de gouvernement,
oui. Oui.
C'est un vieux bouquin de Lazarsfeld, qui soit bien sur...
Ça, oui, mais eux, quand ils disent la gauche, quand même, parce qu'attention, au niveau européen, le SPD, c'est un parti centriste.
C'est la gauche de la gauche.
C'est ce qu'on appellerait la gauche de la gauche. Enfin,
tout dépend ce qu'on appelle gauche, mais une des raisons, à mon avis, des capacités de mobilisation des Le Pen, c'est qu'ils ont cette position très particulière dans l'univers politique. Et à la fois, ils ont de l'audience, du retentissement, et en même temps, ils ont une apparence de main propre, puisqu'ils n'ont jamais été associés aux décisions. Et donc, il y a une apparence de crédit. On a tout essayé, sauf celui-là. Ça, c'est un truc qu'on a entendu.
Ça, c'est un truc qui pèse beaucoup sur le PS.
Ouais, ça, je vais le mettre. Ça, c'est hyper
important. De toute façon, j'enregistre sur un seul fichier. Bon, d'accord. Alors, est-ce que vous diriez que la base sociale s'est élargie?
La base sociale, oui.
De la gauche. Enfin,
quelle la gauche radicale?
Mais de la gauche, de gauche, disons de la gauche radicale.
La gauche radicale, ouais. Sa base sociale s'est élargie. C'est ça la question?
Oui, non, mais est-ce qu'elle s'est élargie? Pour la gauche, je pense que le résultat des élections montre que oui.
Ce qu'on disait tout à l'heure sur les étudiants ou toutes les petites professions intellectuelles précarisées, moi, je pense que sur les présidentielles premier tour, en tout cas, oui, il y a des choses.
Apparemment, les données dont on dispose, qui sont, on le redit à nouveau, extrêmement grossières, imparfaites, etc., ce qu'on voyait de Mélenchon au premier tour, c'était quand même une courbe assez plate, dans toutes les catégories, enfin dans beaucoup de catégories, avec un tout petit pic pour les professions intermédiaires. Donc, c'est-à-dire qu'ils font pas, ils font à peu près le même résultat.
Il n'y a pas de survote dans une.
Sauf les petits professions indépendantes, ouais, les agriculteurs, ils font moins. Mais sinon, ouvriers, employés, professions intermédiaires, c'est à peu près pareil, c'est un peu plat. Avec un petit pic pour les professions intermédiaires. Alors, les professions intermédiaires, ça peut être des trucs extrêmement divers. Donc, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est plutôt des professions intermédiaires du secteur public. Et à capital culturel, quoi, plutôt dans des positions intellectuelles.
Un fort décalage titre-poste, probablement.
Hein?
Oui. Un fort décalage titre-poste.
Bon, alors là.
Ça, tu le vois au niveau de la géographie du temps, ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois les scores de Mélenchon à Angers, Nantes, Strasbourg, Metz, il se passe quelque chose.
Et de ce point de vue.
C'était terminé.
On avait des trucs comparables avec le NPR, ou avec les gens.
Oui.
Donc il a mangé Besançon, pour une part.
Il a mangé Besançon,
pour une part.
Les Allemands, eux, la gauche, ils ont peur de se faire manger par les pirates. Ils entendent de se faire manger.
Ah oui.
mais pas les pirates.
Ça pourrait... Ah oui, sur Berlin et tout. Oui.
Ah non, mais pas seulement sur Berlin. Les pirates de production, ils ont carrément été exclus du, du truc de Rhénanie-Westphalie. Mais je vais faire une note si ça vous intéresse là sur Zurich, à partir d'un article.
Tu parles allemand?
Oui, oui, c'est ma langue maternelle.
C'est ta langue maternelle?
Je vais soutenir mes marques.
Et tu te sens français?
Dialecte. Ah ben, je... non, mais quand je parle avec des gens de chez moi, on dit les Français quand même.
Ah ouais?
Ah ouais. Ouais, on dit les Français, moi ça me vient spontanément, c'est un Français.
Comme les Antillais, quoi.
Ah, c'est
voilà, c'est ça. Bon, deuxième question, plus rapide. Alors, dans quelle mesure la crise européenne... Alors, il parle de la crise...
Il va se balader en Grèce, c'est lui qui le fait.
La crise européenne... Non, non, il y a 9 questions.
Ah, putain.
Non, moi, je veux...
C'est plus la biographie.
Alors, la crise européenne a-t-elle affecté les relations politiques entre les key players de la gauche? Alors, les partis... les syndicats et les mouvements. Et vous avez la réponse à la question de qui c'est la gauche, puisque y a-t-il eu un glissement dans les relations entre the left, social democracy and the greens. Donc pour eux, the left, c'est bien ce qui n'est pas la social-démocratie. Si oui, dans quelle direction? Donc premièrement, est-ce que ça a affecté les... moi, j'aurais tendance à dire oui, ça a renforcé les liens, non?
Des liens entre qui et qui?
Entre les partis, les syndicats et les mouvements. Non, on n'est pas dans un... Avec la crise, hein. Il demande si la crise a affecté les relations entre les partis de gauche.
La gauche, quand on dit parti de gauche, c'est la gauche radicale.
Oui, les partis de la gauche radicale, les syndicats et les...
Ça les a rapprochés.
Ouais.
Oui. Mais ça les a pas rapprochés des Verts, hein.
Non, mais justement, on peut mettre les verres à part. Non, mais là, il s'agit des partis, des syndicats et des mouvements.
Oui, dans des perspectives qui sont plus intergouvernementalistes, quand même, alors que les Verts sont complètement dans le fédéralisme.
Ah non, mais là, tu parles de la conception européenne.
Oui.
Non, là, c'est il demande un truc sur la situation en France.
Ah, oui, d'accord.
C'est-à-dire, est-ce que la crise a, en quelque sorte... Est-ce qu'elle a joué un rôle? Non, mais est-ce qu'elle a facilité les relations? Est-ce qu'elle les a compliquées? Ou est-ce que c'est resté pareil?
Moi, je pense qu'à partir du moment où la crise se manifeste d'abord et avant tout par une diminution brutale des taux de syndicalisation,
ah ouais,
tu as des logiques bureaucratiques d'appareil. Tu vois très bien la CGT.
C'est vrai ce que tu viens de dire. Oui. De savoir que les taux de syndicalisation.
On est à moins de 5% du secteur privé. Si la France est à 9%, c'est
avec un déclin,
et je crois que les taux maximum en France c'est 70. Enfin, tu prends la Libération, ça diminue, t'as un plafond, ça remonte un peu.
Mais c'est un déclin historique, ça.
Oui, mais c'est parce que ce qu'ils a... pour ouais, enfin, le problème de ces questions-là, c'est qu'elles
sont la crise
depuis 2008.
Non, mais eux sont toujours. Ils sont toujours dans l'idée, la crise, ils disent la crise européenne, c'est ce qui a commencé aux États-Unis.
Ah,
la crise actuelle, quoi.
Crise de 2008, depuis 2008, et puis c'est ça.
Là, c'est un peu...
Si on voit ce qui s'est passé en France, il y a un certain rapprochement quand même du front de gauche avec les syndicats, la CGT quand même. Et tu as une fraction de la CGT qui s'est rapprochée du front de gauche.
Avec Solidaires, surtout. Ça, c'est nouveau, quand même. Enfin, je veux dire, les bonnes relations avec la CGT sont quand même inscrites dans l'histoire.
Mais la CGT, là, quand même, elle s'est engagée plus nettement qu'elle s'est engagée à l'élection précédente.
Oui,
contre Sarkozy. Et contre la vie de Thibault.
Oui, bien sûr.
Et contre la vie de Thibault.
Ah oui, Thibault était absolument pas favorable à ce que...
Repolitiser les...
Ah ouais. Et Solidaire, moi ça me frappe, hein, dans les milieux que je fréquente aujourd'hui, Solidaire, les dirigeants de Solidaire sont dans tous les trucs qui auparavant posaient problème. Hein. Il y avait les partis politiques, par exemple, ça ne les gêne plus. Hein. Je ne dis pas que parce qu'ils ont leur bureau à côté de colonel Fabien, mais par exemple dans la fondation Copernic, qui était quand même assez... qui se démarquait un peu du Parti communiste, là maintenant c'est fini ça. Et... donc il y a bien, d'accord.
On est revenu du fréquentable.
Tu sais, moi je pense que quand même Le fait qu'il y ait une contraction morphologique en termes d'adhérents, en affaiblissement, aux effinances, aux voies PC et tout, ça produit des effets qui ne sont jamais très favorables. Ça. Mmh. Et tu vois bien avec le PC qui a commencé à reprendre ses billets au sein du front de gauche et tout. Enfin, on sent bien les petits signes. Ton camarade Bokeh, par exemple, sorti des déclarations à la Voix du Nord,
il y a Mélenchon qui fait. Bon, et est-ce que donc les relations alors entre la gauche donc radicale, la social-démocratie et les Verts, est-ce qu'il y a eu un shift
entre la gauche radicale, la social-démocratie et les Verts?
Oui, non, dans les relations.
Enfin, la gauche radicale et les Verts, moi je trouve que d'abord en termes de encore, tu le vois en faisant non plus les sondages, vraiment plus la géographie électorale, c'est absurde. Enfin, les corrélations sont presque négatives maintenant entre les scores Mélenchon et les scores des Verts.
Oui, mais ça a toujours été le cas quand même entre les communistes et les Verts.
Mélenchon, il a fait des sorties fraudes.
Oui, mais justement.
Ah non, mais.
Je pense que ça.
Parce que Hulot a dit qu'il a voté pour lui.
Oui. Oui, mais ce que. Non, mais. Ce qu'a bien dit Vajoli en compagnie, c'est qu'il est en train de dépiquer le programme.
En Europe, il faut tenir compte du fait que les Verts français et les Verts scandinaves sont quand même plus à gauche que les Verts allemands, par exemple. Les Verts, pour l'instant, en France, on ne les voit pas quand même participer à un gouvernement de droite. Alors qu'ils nous font. Hollander, le gars qui a été élu président de Bade-Württemberg, là, c'est une alliance avec la CDU. C'est quand même, en France, je crois, on n'en est pas là.
Quoi. Ils sont minoritaires, mais ils sont présents.
C'est très bien dit, était pour cette ligne.
Oui.
Oui. T'as Europe Écologie, t'as des factions d'Europe Écologie qui sont plus à droite que les Verts. Quoi.
Ah oui.
C'est composé, sûrement.
Non, mais même les. Duflo, c'est comme elle s'appelle, Martine Billard qui me racontait ça. On avait gros sur la patate à l'époque, quand tu penses que Duflo, elle était quand même la gauche des Verts. Hein.
Bah sur les liens entre le front de gauche et le syndicalisme, nous ce qu'on connaît.
Professionnalisation politique des Verts.
Nous ce qu'on connaît, c'est les rapports entre les grands-parents nationaux, les têtes d'affiche, etc. Est-ce que ça a vraiment un effet électoral? On peut en douter quand même.
Parce
que tu as quand même des lieux, des villes, comme Forbach et ailleurs dans le Nord.
Il faut entretenir une identité.
Non, mais où tu avais quand même t'as des luttes syndicales, avec une CGT très forte dans les luttes pour prendre des fermetures d'usines, et tu as des votes pour le Front National de 10 ou 15 points au-delà
de. C'est pas le même point. À Forbach, il n'y a pas la CGT, parce qu'il n'y a plus les mines, et de toute façon, la CGT n'a jamais été majoritaire. Dans les mines
non, mais
de charbon,
t'as des lieux.
Non, mais là, tu.
Ouais, mais... Non, mais je
en
parle.
Voyant la CGT qui
non, mais
bat,
je pense à Gandrange
ou
des trucs.
Ah oui, mais
ça,
c'est les mines de fer, c'est complètement différent.
Gandrange.
C'est pas les Allemands, ça, c'est les Italiens. Blatini, font pas.
Enfin, moi, je sais pas.
C'est très différent. Dans les mines de charbon, c'était l'émigration, c'était d'abord. Les ouvriers étaient des paysans. Son père était un paysan. Et les,
ça, change tout, hein.
Et les Polonais.
Et les Polonais.
Les Polonais. Il y avait quelques Algériens après-guerre, mais très.
Les Polonais, ça veut dire des catholiques aussi.
Oui.
Ouais.
Ils venaient, et les catholiques à l'époque, ils venaient avec leur. On parle de communautarisme, mais là, les mines, elles construisaient ce qu'on appelait des cités, hein, c'est-à-dire des ensembles, mais en pierre de taille. Hein, c'était même mieux que les courants dans le Nord. Et les Polonais arrivaient par village entier avec le curé et construisaient l'église. Et... Bon, dernière question. Y a-t-il émergence d'un sentiment. Alors, question hautement politique.
Combien de mois,
d'un sentiment antisystémique dans le système politique du pays. Comment s'exprime-t-il? Dans quelle mesure profile-t-il à l'extrême droite? Et que disent vos partis, c'est-à-dire vos partis de la gauche radicale, des politiques antisystémiques?
Antisystémiques,
tous pourris, tous.
Quoi,
non, pas antipolitiques, mais avec d'autres. Hein. C'est-à-dire, moi je lis ça comme à la fois anti-systémique, c'est le tous politique, le tous pourri de Marine Le Pen, mais c'est aussi le Mélenchon, il a quand même écrit un livre fameux sur le thème
qu'il
s'en aille tous.
C'est ce que les Italiens appellent anti-politique. Hein.
Ah oui, ah d'accord.
Ben ça se renforce, contestablement. Ça se renforce.
Alors, ça se conforme, mais ça s'exprime politiquement de façon très différente.
Oui, mais...
Il y a plusieurs formes d'antisystémisme.
Oui, alors vas-y un peu. Ouais.
Bah, tu as une forme populaire, moi j'appellerais ça un scepticisme éthique. Et puis tu as un scepticisme qui est beaucoup plus sophistiqué, un scepticisme politisé. Donc c'est pas du tout les mêmes formes de scepticisme et ça génère pas du tout non plus les mêmes effets en termes de choix. Bon, en tous les cas, il y a un renforcement du scepticisme politique, ça, ça me semble attesté. Bon, alors ce qu'il faut ajouter immédiatement, c'est qu'il est toujours ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du scepticisme et en même temps des velléités de réinvestissement.
On ne croit pas, on voudrait croire.
Constamment. On a des entretiens, par exemple, personne ne dirait il n'y a aucun, tous les mêmes, il n'y a aucun qui me séduit. Ah, Mélenchon, il était pas mal quand même. La même personne, à 10 secondes d'écart. Quoi. Donc, il y a un renforcement du scepticisme. Ce scepticisme, il est complexe, hein. C'est pas un phénomène homogène, il y a plusieurs formes de scepticisme. Bon. Par ailleurs, il est toujours ambivalent, ça c'est extrêmement important. Hein. Donc ça peut être à la fois du scepticisme et des velléités de réinvestissement à tout moment. Tu as du désinvestissement, du réinvestissement à tout moment. Voilà, un truc très compliqué. Donc ça produit des effets multiples, c'est un des facteurs, c'est pas le seul, mais c'est un des facteurs qui pèse sur le renforcement de la tendance à l'abstention. Même s'il y a d'autres facteurs, il y a celui-là. Bon. Dans les milieux populaires, ça a des effets effectivement sur le vote pour la droite radicale, perçu comme les seuls avec qui on n'a pas essayé. Quoi.
Ah oui, c'est ça.
Ils sont peut-être différents. De toute façon, on a essayé les autres, on a vu ce que ça donne, donc on risque rien d'essayer cela. D'où toujours ce scepticisme ambivalent. On est prêt à essayer quand même, on est prêt à croire, on est prêt à essayer. Donc ça... Et puis sinon, dans d'autres segments, ça donne des formes de vote sans illusion.
Ce que tu appelles le scepticisme éthique, donc c'est tous, ils sont tous corrompus, ils sont tous...
C'est le scepticisme qui repose sur l'idée que c'est du fait de l'ordre. De leur défaut de qualité éthique, des qualités éthiques des politiques que tout ça résulte. C'est-à-dire, ils pensent qu'à eux. Ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes. Et sinon, s'ils n'étaient pas égoïstes, les choses se passeraient différemment. C'est une forme de croyance naïve, d'ailleurs, en réalité, dans la capacité des politiques publiques à régler les problèmes. Parce que ça dépend que de la mauvaise qualité, de la mauvaise volonté éthique des gouvernants. Un truc, par exemple, moi je cite toujours de manière idéale typique, c'est une jeune femme complètement paumée qui préparait essayer de devenir monitrice dans un centre éthique, un centre équestre. Et qui disait, ouais, Chirac, il est toujours en train de se balader partout à l'étranger, il est bronzé, tout ça. Bon, on s'en va, il ne s'occupe pas du chômage. Sous-entendu, s'il était plus là, il ne s'occupe pas du chômage, il réglerait le problème.
Oui, tu vois,
par rapport à. Tu sais, les modes de production de l'opinion, je ne sais pas, enfin, d'ailleurs, on peut en dire plus que moi, parce qu'il y aura fini de jouer, mais tu as quand même, sur longue période, une chute en nombre total du mode de production des opinions par délégation ou par procuration.
Ouais, c'est
je m'en remets au parti, je m'en remets au syndicat, je m'en remets au comité à
Il y a effondrement brutal de délégation à des organisations politiques.
À des organisations.
Parce que tu as des délégations des proches. Mais simplement, tu avais des relations de délégation qui transitaient éventuellement par des personnages, d'ailleurs, le secrétaire de cellule, le responsable du CDH, le délégué syndical, le responsable de, comment ça s'appelait, le truc des locataires,
CNL.
Des locataires.
Bah, c'est des ce que Jacques Lagrou appelait les systèmes d'action partisans localisés qui se sont effrités, en fait, parce que c'est ce que disent aussi.
C'est du capital social institutionnalisé. Non. C'est effondré.
Hop.
Et à côté de ça, l'élévation du niveau des diplômes et tout, qui fait que tu as un mode de production en première personne qui est probablement plus fréquent qu'auparavant. Et ça complique évidemment.
C'est une façon délicate de parler d'individualisme, non ? Non, pas tout à fait.
Quand vous écrivez ça, je pense que au plan politique, vous pensez au PSU. Quoi. Le type, c'était d'avoir du PSU.
Bah écoutez, merci pour tout.
Bonnes vacances,
hein. Ouais, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, j'y vais le 15 juillet. J'y vais pour une semaine.
C'est le temps que tu restes en
Non, pour une semaine.
Tu fais pas l'université d'été du fond.